histoire, actualité, comme tous les vendredis dans la Fabrique de l'Histoire, nous parlerons du corps du prophète en première partie de cette émission, mais également de la place de l'homme dans la nature avec Romain Bertrand, deuxième partie de cette émission. Pour notre séquence mensuelle avec notre partenaire le magazine L'Histoire et sa directrice de la rédaction Valérie Hanin, notre invité est ce matin Sobhi Boudherbala, il est maître assistant à l'université de Tunis et il nous parlera donc du corps du prophète. En deuxième partie, Romain Bertrand plaidera avec une audace d'écriture et de composition qui intéressera forcément les jeunes historiennes et les jeunes historiens d'aujourd'hui pour un art de la description dans son dernier ouvrage Le détail du monde, publié aux éditions du Seuil. Enfin, à toute fin de cette émission avec Retro News de la Bibliothèque nationale de France, nous nous souviendrons de la fin de la guerre d'Espagne en mars 1939.
أيتهم الله الصمد
Il n'était ni d'une grandeur excessive, ni d'une petitesse ramassée, mais d'une taille moyenne. Ses cheveux n'étaient ni très crépus, ni droits, mais longs et ondulés. Son visage n'était pas trop gros, ni ses joues trop gonflées. Sa peau était blanche, teintée de rose. Ses yeux étaient très noirs et ses cils longs. Ses membres et sa carrure étaient forts. Il avait de longs poils sur la poitrine, mais courts sur les mains et les pieds. Quand il marchait, il hâtait le pas, comme s'il descendait une côte. Quand il se retournait, c'était de tout son corps. Il portait entre les épaules le sceau de la prophétie, lui qui était le sceau des prophètes. Personne n'avait la main plus généreuse, ni la poitrine plus ouverte. Un extrait de la vie du prophète de Ibn Hisham, donc dans sa traduction par Grill dans le corps du prophète, revue des mondes musulmans et de la Méditerranée, qu'on trouve dans l'excellent numéro de la revue L'Histoire qui vient tout juste de sortir sur le corps en islam de Mohammed aux révolutions arabes. Bonjour à vous Valérie Hanin.
Bonjour Emmanuel.
Un numéro donc à l'occasion des rendez-vous de l'histoire de l'Institut du monde arabe dont vous êtes également partenaire au magazine L'Histoire et nous avons le plaisir de recevoir Sobhi Boudherbala. Bonjour Sobhi Boudherbala.
Bonjour Emmanuel.
Eh bien oui, nous sommes très heureux que l'Institut du monde arabe ait choisi ce thème parce que depuis 40 ans, nous nous sommes vraiment habitués à considérer les rapports de l'islam avec le corps comme une longue histoire de voile, de dissimulation ou même de frustration. Et les historiens, notamment dans ce dossier que nous avons pris grand plaisir à faire, nous livrent une version bien différente. Bien sûr, il y a le rapport qu'on connaît assez bien des médecins arabes avec le corps, hein, qui n'ont pas fait seulement que transmettre la matière grecs d'Hippocrate, mais qui ont aussi inventé un régime, enfin se sont interrogés sur les régimes du corps. Et puis la sexualité. Julien Loiseau nous rappelle dans ce dossier que la langue arabe est la langue qui a le plus servi à chanter l'amour au Moyen-Âge. Il y a vraiment, tous ces aspects sont abordés et le plus surprenant, c'est ce pour nous. Ce que vous dites Emmanuel, ce que vous avez rappelé en lisant cet extrait d'Ibn Hisham, c'est que le corps dont on parle beaucoup, sur lequel on livre beaucoup de détails, et ça nous surprend évidemment beaucoup, c'est le corps du prophète. Alors, que nous apprennent ces sources ? Quelles sont ces sources, Sobhi Boudherbala, qui nous parlent du corps du prophète? Commençons par là. Le prophète a donc un corps. Bon, on s'en serait douté, peut-être, mais encore faut-il le rappeler dans un moment où on a tendance à le marteler partout, à l'effacer. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte, ces sources qui parlent du corps du prophète? Que sait-on de ce corps et pourquoi en parle-t-on tant?
Merci. Alors oui, l'extrait que vient de lire Emmanuel est très parlant. C'est un beau tableau. Ça nous dit que le prophète avait un corps qui a été beaucoup raconté, beaucoup écrit à partir du 9e siècle par des historiens, par des lettrés musulmans qui voulaient ériger un peu le prophète à travers aussi sa description physique comme un modèle, comme un exemple. Ça nous dit surtout que la représentation en islam n'est pas interdite. Le Coran ne souffle le mot sur l'interdiction. Tout le premier siècle islamique voit une expression artistique de très haute volée, notamment on le voit sur la couverture de ce beau numéro de la revue Histoire. Et puis surtout, à partir du XIIIe siècle, on voit le prophète représenté, dessiné dans les manuscrits, sur les murs, avec un visage découvert. Et ce n'est qu'à partir du XVIe siècle où on voit, on va pas effacer, mais en tout cas rendre abstrait le visage du prophète. Mais selon les historiens de l'art, ça correspond plus à une nouvelle mode, une expression mystique qui veut montrer le prophète plutôt comme une lumière prophétique qui prend source dans la lumière divine. Donc de tout temps, on a représenté le corps des hommes, des animaux et aussi le corps du prophète. On a même cru voir sur les dinars de l'Empire au 7e siècle la représentation du prophète au lieu du calife, ce qu'on appelle le calife debout.
Mais il est représenté toujours de la même manière. C'est quoi cette représentation du corps? C'est un corps idéal? C'est un corps auquel peut-être on veut ressembler?
Sans doute, il est représenté toujours. Alors, on fait beaucoup de détails sur le teint rose de sa peau, la barbe bien taillée. D'ailleurs, c'est un homme dans les textes, c'est un homme qui aimait beaucoup la cosmétique, les parfums, la teinture, et d'ailleurs ça a donné naissance à toute une industrie qu'on pourrait appeler prophétique, où on veut imiter le prophète à travers le choix de parfums.
Aujourd'hui encore.
Aujourd'hui encore, on le voit toujours devant les mosquées, avec des petites échoppes où on vend des parfums, entre guillemets, prophétiques.
C'est quoi le parfum du prophète? Le parfum préféré du prophète?
Alors, on parle de musc, mais dans l'Arabie pré-islamique, et surtout avec la naissance de l'Empire, il y a toutes sortes de parfums commercés.
Il y a ces descriptions, ou c'est plutôt ces représentations physiques, mais il y a aussi beaucoup de descriptions dans les textes. C'est assez incroyable de lire autant, quand on lit le numéro de l'histoire, de lire autant de représentations par l'écrit, donc par les mots, qui permettront sûrement ensuite des représentations graphiques du prophète. Mais ces textes, ils viennent d'où? Ils viennent des compagnons du prophète? Ils sont plus tardifs? Comment peut-on classer justement la totalité de ces textes qui racontent comment était le prophète physiquement, d'une certaine façon, et son comportement?
Oui, alors ces textes font partie d'un grand mouvement de mise en écrit de l'histoire musulmane qui va démarrer au milieu du 8e siècle, où on va essayer de rassembler un peu, alors si on suit la tradition, on va rassembler un peu toutes les traditions orales qu'on va consigner par écrit, dont notamment tout ce qui concerne la vie du prophète, et donc il va donner naissance à cette version canonique de la vie du prophète que vous avez cité, la Sirat ibn Hisham. Donc c'est essentiellement, les références sont les compagnons les plus proches, et on remonte avec les chaînes de transmission, ce qu'on appelle les chaînes d'isnad, transmission, témoin oculaire, et puis toute cette chaîne de lettrés qui ont transmis ce vécu prophétique.
Valériane.
Et puis alors, évidemment, il y a toutes ces notations très abondantes sur la vie intime, la vie sexuelle du prophète. Et alors là, vous nous en parlez beaucoup, Sobhi Boudherbala, dans cet article que vous avez intitulé « Le prophète et ses femmes ». Et là, on va quand même un peu de surprise en surprise, car on nous dit que le prophète est un modèle, est présenté comme un modèle. Or, la polygamie à ce niveau-là est quand même tout à fait surprenante. Nous avons dressé le tableau du harem prophétique, 11 femmes, pas moins de 11 femmes et 2 concubines. Alors pourquoi, qui sont ces femmes? Pourquoi tant de femmes? Pourquoi ce qui est interdit aux autres est autorisé aux prophètes? Pourquoi tant de femmes?
Oui, alors je commencerai par citer un hadith, donc un dit du prophète, où il dit: de notre monde m'ont été rendus aimables les parfums et les femmes. L'histoire de Mohammed, l'histoire du prophète, on peut la diviser en deux parties, qui correspond d'ailleurs à la division des sourates dans le Coran, une période médinoise, une mécoise et une période médinoise. La période mécoise, on voit un prophète plutôt monogame, fidèle à sa première femme Khadija. Ensuite, l'égir, qui va vraiment lui donner cette... ce rôle de chef de communauté, ce rôle de chef politique, va transformer aussi sa vie privée, donc avec la conclusion de plusieurs mariages qui correspondent, à mon sens, à des alliances stratégiques, donc des femmes de ses plus proches compagnons, des grands notables mécois, des grands notables tribaux à l'époque. Mais aussi les textes insistent beaucoup sur le désir et sur l'amour qu'avait Mohammed pour les femmes, notamment la captive juive Safiya. Donc on insiste vraiment sur
On parle de coup de foudre, de désir irrépressible. C'est étonnant, cette liberté quand même qui est celle des sources de ce point de vue.
Oui, je pense que c'est... Il y avait même... On voit derrière les textes une forme de jubilation des lettrés à écrire cette histoire privée de Mohammed. Et surtout, l'amour qu'il avait pour ses femmes, sa fille, mais aussi Maria la Copte ou Zainab, qu'on évoquera tout à l'heure. Donc il y a les alliances stratégiques, bien entendu, mais il y a aussi ce désir... d'ailleurs qui est très bien narré dans les sources et avec une pointe de sexualité.
Vous décrivez dans cet article pour le magazine L'Histoire, vous décrivez comment en fait on a figé ces figures de ces femmes dans ce que vous appelez une sorte de harem intouchable, Sobhi Boudherbala, et en fait qu'il faut aller au texte pour voir justement les variétés de rapports de Mohammed à ses concubines ou à ses femmes, parce que effectivement pour chacune d'entre elles il y a comme une sorte de description qu'on voudrait la plus précise possible, même si tout cela est sûrement marqué du sceau de la réinvention postérieure, la plus précise possible de son rapport personnel avec chacune de ses femmes ou concubines, en l'occurrence Sobhi Boudherbala.
Oui, tout à fait. Alors il y a deux groupes dans le harem prophétique. Il y a les femmes que le Coran canonise en mère des croyants, donc les enfermant un peu dans un statut assez symbolique, c'est-à-dire que les mères des croyants, les épouses de Mohammed, n'avaient pas le droit de se marier après la mort du prophète. Mmh. Et à côté de cela, il y a les concubines pour qui le prophète avait aussi beaucoup d'amour et beaucoup de désir. On a des descriptions assez précises, notamment pour la femme préférée, c'est-à-dire Aïcha, qui est vraiment... qui élevait un rang inégalé parmi les épouses. Mais aussi, je prends l'exemple de Maria la Copte parce qu'il est assez symbolique, je pense, dans la vie du prophète et surtout dans la descendance que le prophète a eue, la descendance masculine. Toujours des anecdotes qui racontent un peu la gestion de ce harem. Vous avez évoqué tout à l'heure ce qui était interdit aux croyants était licite, licite par des versets coraniques aux prophètes, notamment le nombre de femmes. Donc on n'est pas dans une formule polygame à quatre, mais le Coran parle de, eu égard à sa mission prophétique, il a le droit de conclure autant de mariages qu'il veut. Et puis surtout, je pense que c'est un peu l'exception qui confirme la règle, c'est-à-dire on va ériger le prophète en exemple, mais voilà, on peut pas atteindre l'exemple, donc on va, par exemple pour la polygamie, fixer des règles très strictes pour les croyants, mais en s'appuyant sur la gestion du harem par...
C'est à la fois un modèle et une exception, hein, puisque voilà. Le Coran par la suite va fixer le nombre de femmes à 4, en effet, lui en a 11 et 2 concubines, donc c'est à la fois un modèle, c'est un peu difficile à comprendre ça, c'est à la fois un modèle et une exception, mais c'est peut-être dans la difficulté à comprendre que réside le secret.
Oui, tout à fait,
parce que
si on lit bien le verset qui concerne la polygamie, on voit que la polygamie est soumise à des règles très strictes. C'est pour cela d'ailleurs qu'on observe que dans les sociétés musulmanes, qu'elles soient anciennes ou actuelles, la polygamie est très difficile. C'est très rare de trouver, par exemple, quelqu'un qui a 4 femmes, parce qu'il y a des règles rigides en matière de gestion. Mais bon, voilà, le prophète avait ce droit de...
Est-ce que cela a eu des conséquences, Sobhi Boudherbala, sur la gestion politique? En particulier, vous expliquez dans votre article qu'il y a évidemment la question de la succession du prophète. Sur la gestion politique de la suite, donc à la suite du prophète, est-ce que tout ce travail que vous avez mené et que d'autres érudits mènent autour de la question des femmes du prophète a quelque chose à voir avec la façon dont l'Empire islamique ensuite s'est développé, les tensions qu'il a pu y avoir à l'intérieur de ce même empire, les contradictions, pourrait-on dire, de la succession, justement?
Oui, tout à fait. C'est l'une des grandes questions que se posent aujourd'hui les historiens, et c'est une question nodale dans la compréhension de la naissance du califat. Alors on sait bien que Mohammed a eu des enfants, selon la tradition, des enfants mâles de son premier mariage, mais qui sont morts en bas âge. Ensuite, il faut attendre, malgré les nombreux mariages contractés, il va avoir un seul enfant mâle
d'une concubine,
Maria Lacop, mais qui va mourir aussi à l'âge de 20 mois. Donc la question de sa succession se posait.
Et donc il n'a pas de fils. Il y a beaucoup de femmes,
il n'a pas de fils.
Il n'a pas de fils.
Oui. Il va adopter un fils quand il était à la Mecque, Zayd. Et aujourd'hui, les études montrent un peu que derrière ces mariages, il y a la succession, il y a surtout la succession politique, c'est-à-dire à la mort du prophète qui va lui succéder. Et on parle de sa famille directe. Donc ces deux petits-fils, Al-Hassan et Al-Hussein, qui sont nés de sa fille Fatima et de son gendre et cousin Ali, mais aussi de son fils adoptif Zayd, qui va être exclu.
Est-il exclu? C'est une histoire incroyable, parce qu'au fond, ce que nous raconte le Coran, c'est une affaire d'inceste.
C'est une affaire d'inceste. Donc Zayd, son fils adoptif, va se marier avec la cousine du prophète, qui s'appelle Zainab. Et la tradition raconte qu'un jour, Mohammed a eu un coup de foudre pour Zainab en allant voir son fils adoptif. Alors le Coran qui interdisait les mariages incestueux va abroger le verset en introduisant un nouveau verset qui permet au prophète de se marier avec Zainab une fois répudié par Zayd. Ce que va faire Zayd, Mohammed va épouser Zainab, mais par la même occasion, il va rompre le lien adoptif avec Zayd. Et donc les historiens, enfin un historien en particulier, pense que la rupture du lien adoptif, elle est postérieure au texte, c'est-à-dire qu'elle a été introduite par les successeurs du prophète pour couper court à toute succession héréditaire.
Et puis, cette vie intime, pourrait-on dire, du prophète avec ses femmes, telle que vous la racontez dans ce numéro de l'Histoire, ce Hibou d'Herbala, a des conséquences aussi, parce que selon que l'on est aujourd'hui de tradition chiite ou de tradition sunnite, on lit différemment justement le rôle de chacune de ses épouses auprès du prophète, le rôle qu'elle a joué, qu'elles ont pu jouer, les complots qu'elles ont pu ourdir supposément pour pouvoir donc favoriser tel ou tel des successeurs potentiels. Enfin, ça fait partie effectivement d'une histoire politique qui est en même temps une histoire intime de la vie du prophète.
Tout à fait. C'est vraiment le politique qui se joue dans l'intimité et dans l'entourage du prophète. Alors la tradition chiite depuis le début accuse Aïcha, donc la femme préférée du prophète, d'avoir orchestré un complot visant l'assassinat du prophète et visant aussi d'écarter sa fille Fatima et son gendre Ali de la succession. La découverte de nouveaux textes chiites, d'exégèse coranique chiite, édité par Mohammed Ali Amir Mouazzid de l'école pratique des hautes études à Paris, montre que on a gommé des parties, des versets qui mentionnait directement Ali comme légataire, comme successeur du prophète.
Valériane.
Oui, c'est-à-dire que toutes ces histoires extrêmement compliquées, hein, d'intimité, de sexualité, de jalousie, de coups de foudre, d'inceste, d'adoption, etc. Au fond, ça amène, comme vous le disiez, Emmanuel, à quelque chose de plus important encore peut-être, qui est en effet de savoir qui va succéder au prophète et à un moment donné de sceller, c'est le sceau des prophètes, ça va sceller la succession et au fond laisser la voie libre aux deux premiers califes, aux compagnons, Abou Bakr et Omar.
Oui, tout à fait. C'est tout le sens que plusieurs historiens donnent à l'expression le scellement de la prophétie.
Le
sceau des prophètes, qui peut être interprété comme celui qui accomplit, qui est l'héritier de la tradition prophétique, mais aussi comme celui qui va clore le lien entre le ciel et la terre, et donc il y aura plus de prophète après Mohammed. Donc du coup, la voie est ouverte à ses proches compagnons.
Mais alors, est-ce qu'il faut en conclure que toutes ces histoires ne nous racontent rien du tout sur la manière dont on considère les corps, la sexualité, le plaisir, les rapports entre les hommes et les femmes dans l'Arabie du 7e, peut-être pas, mais du 9e siècle ou du 10e siècle, quand les textes ont été au fond...
Figés,
oui. Est-ce que ça nous raconte quelque chose quand même du rapport au corps de ce Moyen-Âge
islamique ?
Je pense qu'il nous
raconte, c'est mon opinion personnelle, oui. Je pense qu'il nous raconte énormément sur le rapport au corps, sur le rapport à la sexualité. D'ailleurs, on va le voir pendant le premier siècle. Ce qui est intéressant, c'est que plusieurs anecdotes et récits vont filtrer sur cette vie assez extraordinaire des cabarets, des féminés à Médine, etc. Je pense qu'il y avait une forme de... Ce qui correspond aussi à la naissance d'un empire qui était en pleine expansion et en plein essor. Une vie où le sexe, les rapports intimes tenaient une place importante.
Et c'est ce qu'on relie aujourd'hui, d'une certaine façon, quand on est historien, on va au-delà justement de ces textes qui sont des textes souvent de caractère un peu hasardeux au point de vue historique, mais on voit derrière quelque chose de différent. En l'occurrence, Sobhi Boudermala, c'est-à-dire une vie que l'on ne voyait pas auparavant, qu'on ne voulait pas voir.
Tout à fait. Et je pense que tous les textes écrits au IXe siècle... de caractère juridique, normatif, etc. Essayer de codifier ces pratiques sociales.
Bien sûr. Merci beaucoup, Sobhi Boudermala, et merci à vous, Valérie Hanin, d'être venue pour parler de ce très bon numéro du magazine d'histoire sur le corps en islam. On y évoque évidemment les corps en révolution, mais on y évoque également la question des médecins, vous l'avez dit, Valérie, l'ascétisme et la transe, et donc cette question des femmes du prophète. L'Institut du monde arabe reçoit dès aujourd'hui tous ceux qui veulent bien y venir pour parler du corps. On y parlera aujourd'hui de l'alcool à 11h avec en particulier Nassim Znaïen, la figuration et la défiguration dans l'islam, le corps, laboratoire de l'au-delà ou encore médecine et genre. Ça, c'est très intéressant autour de la santé des femmes. Et puis, demain, on parlera de la ville, le Caire, dans les années 20 et la façon dont les corps s'y propagent. Le corps à l'épreuve de la foi, de la guerre et de la mort, les corps exhibés, la subversion et le trouble dans le genre. Beaucoup de sujets donc autour du corps à cet Institut du monde arabe toute cette journée, demain et après-demain. Merci à tous les deux. Et vous-même, vous ferez un débat autour du corps du prophète.
Autour
dimanche.
Du corps du prophète.
Merci encore, Sobhi Boudermala.
Merci, Emmanuel.
France Culture, la fabrique de l'histoire, Emmanuel Laurentin.
9h29, nous retrouvons tout de suite Romain Bertrand pour son dernier livre, Le détail du monde, qui nous plonge dans une autre histoire, une histoire du 18e, 19e et 20e siècle. Romain Bertrand, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes l'auteur d'un livre qui vient tout juste de sortir aux éditions du Seuil dans la collection L'Univers historique qui s'intitule Le détail du monde, l'art perdu de la description de la nature. Alors vous nous avez habitués à faire des sauts de puce en passant du 20e siècle et de l'Indonésie contemporaine, là où vous avez commencé à travailler également sur le post-colonial, puis ensuite à vous intéresser à l'Indonésie, mais là à la fin du 16e siècle et à la conquête espagnole aux Philippines. Et là, vous nous emmenez sur un autre terrain, un terrain qui n'est pas disciplinaire au plein sens du terme, puisque c'est un terrain qui mélange à la fois la question de la littérature et de la description littéraire, et également de la description par les images du monde au 18e et au 19e siècle, donc une période qui n'est pas la vôtre. Pourquoi vous êtes aventuré sur cette période et avoir quitté vos périodes de référence ?
Ben, je m'y suis aventuré presque malgré moi et pour deux raisons. Et la première, c'est que je poursuis à l'heure actuelle une enquête sur un fait historique survenu à Bornéo à la fin du 19e siècle et que donc je m'y suis rendu à plusieurs reprises pour aller travailler aux archives et que m'y étant rendu la dernière fois l'an passé, j'ai pris la mesure de la dévastation écologique à laquelle cette région du monde était soumise à l'heure actuelle et de ça, de cette contemplation d'un monde naturel de plus en plus désespérément abîmé et que j'avais connu il y a déjà 25 ans sinon en meilleur état, du moins un peu plus pimpant. Et bien est née quand même l'idée qu'il fallait aussi essayer de le décrire dans nos récits historiques. Mais de ceci a surgi la conscience d'une indigence de moyens descriptifs, d'une sorte de manque de mots, en particulier pour dire les lieux naturels. Et il se trouve que d'une certaine manière, contemplant le désastre, j'avais avec moi une partie peut-être de la solution pour en rendre compte, dans le sens où depuis des années je voyage en Indonésie avec les écrits des grands naturalistes qui y ont séjourné, et en particulier avec le livre d'Alfred Wallace, qui a séjourné pendant 8 années et qui très précisément d'ailleurs a beaucoup résidé au nord de Bornéo. Et en fait, à partir de là, tout un ensemble de lectures que j'avais faites de manière un peu disparate se sont un peu assemblées et ont commencé à m'entraîner sur la piste, voilà, de la façon dont on avait pu à un moment donné vouloir tenter de rendre compte du monde naturel dans l'ensemble de ses détails, c'est-à-dire d'une certaine façon être par être.
Alors, ce qui est très intéressant, c'est que vous allez chercher donc avec des figures très différentes. Donc, Alfred Russel Wallace en est une, Ernst Haeckel en est une autre. C'est l'inventeur du terme d'écologie. Évidemment, on croise Darwin très peu, mais on le croise tout de même parce que c'est un concurrent de Alfred Wallace. Et on y croise également Humboldt, le grand explorateur de la fin du XVIIIe et du début du XIXe siècle. On découvre aussi un peintre qui s'appelle Louis Tinet. Et de ces morceaux épars, vous allez tenter justement de nous expliquer comment, entre le 18e et le milieu du 20e siècle, a changé le regard de ceux qui veulent rendre compte de la nature entre donc cette période de la toute fin du 18e siècle et la période contemporaine, avec une destruction de la nature que vous avez pu noter justement en Indonésie en vous y rendant depuis maintenant plus de 20 ans.
Oui, il s'agit d'un ensemble d'auteurs que je réunis pas forcément dans une généalogie tirée au cordeau.
Pas du tout.
Non, c'est pas
Ce sont des parallélismes qui se croisent parfois et parfois non.
Et parfois non. Et puis c'est aussi souvent d'une certaine manière la chronologie des précédents assumée par les acteurs, par les personnages dont je parle. Parce que lorsqu'on s'intéresse à Wallace, eh bien, on se rend compte que l'une des grandes passions de lecture de Wallace dans sa jeunesse, eh bien, précisément, ce fut Humboldt. Et lorsqu'on s'intéresse à Humboldt, eh bien, on ne peut pas ne pas s'intéresser également au dialogue qu'il avait noué avec Goethe et qui est d'une certaine manière l'incarnation de ce moment. Et c'est ce moment-là qui, d'une certaine manière, s'est perdu ou étiolé, ou effiloché, ce moment où ce que nous appelons aujourd'hui les sciences et la littérature conversaient au sens propre et d'une certaine manière s'offraient réciproquement les moyens d'aller vers une description de plein pied du monde et une description dans laquelle l'homme n'était plus le seul qui comptait.
C'est ça d'ailleurs qui est le propre de votre travail, de rêver une sorte, alors est-ce que c'est un âge d'or, un moment en tous les cas, selon vous, pendant lequel, alors que vous avez travaillé sur la conquête espagnole aux Philippines et qu'on a bien vu le poids énorme qu'il y avait de prédation dans ces conquêtes de ces années du 16e et du 17e siècle, mais c'est d'imaginer que ce 18e siècle est un moment un peu particulier, une sorte de parenthèse, l'esprit des Lumières, la volonté de décrire le monde et surtout de ne pas l'agresser comme il le sera plus tard. Et toute la question, c'est qu'est-ce qui se passe entre ce moment de Humboldt dialoguant avec Goethe, avec la suite, Wallace, le 19e siècle, les naturalistes, la création des grandes institutions d'histoire naturelle au 19e siècle, et évidemment ce qui suit au 19e et au 20e siècle.
Oui, et d'une certaine manière, sans réunir nécessairement en une généalogie l'ensemble de ces moments, on peut en tout cas les travailler pour montrer à quel point le contraste est grand. Entre effectivement cette fin du XVIIIe siècle, mais qui charrie avec elle des siècles, d'un rapport descriptif très particulier au monde naturel. Depuis Pline au moins, depuis la pensée analogiste de la Renaissance, et un art de la description qu'on peut ranger sous la double rubrique de la volonté de rendre compte de la nature dans le moindre de ses détails, dans la plus petite de ses existences, et en même temps de le faire d'une certaine façon en restant à la surface des choses. Un mode de classification qui avant de penser à l'incision des êtres, eh bien, pense tout simplement à essayer de les assembler ou de les ordonner par la façon dont ils apparaissent, donc leur surface au sens aussi de leur surgissement. On a donc ce moment-là qui est un moment où, de fait, dans le voyage aux régions équinoxiales de Humboldt, cette histoire naturelle-là jette ses derniers feux, hein, d'une certaine façon. Et puis on a un autre moment qui est celui des années 1930, où en particulier, à travers des textes de Paul Valéry et puis surtout la poésie de Francis Ponge, on voit très bien que le constat est dressé de la perte de l'ensemble de ces lexiques et même de ces outils narratifs qui permettaient d'aller vers ce rêve-là, qui n'a jamais été qu'un rêve, une sorte d'horizon, mais qui avait cette particularité intéressante, cette quête descriptive, d'obliger à prendre le temps de l'attention et donc le temps du souci du monde. Voilà, ça dessinait le lieu d'une attention qui était aussi une compassion. Et on se rend compte, donc, à simplement contraster ces moments, que quelque chose s'est défait. Et on peut tirer un dernier constat, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes parfaitement dénués des moyens, des mots, pour dire le plus banal des paysages. Et je mets au défi quiconque aujourd'hui d'essayer de décrire au plus près d'un certain nombre de ces éclats. Et dans l'instant d'une apparition, une lisière, un champ, une forêt, et tout particulièrement les historiens. Moi, je sais parfaitement décrire dans le moindre de ces détails le palais d'un sultan malais. En revanche, je suis quasiment dépourvu du moindre mot pour dire une jungle.
Et vous pensez donc que c'est une perte, ça ? C'est-à-dire qu'on l'a eu, on l'a connu, il y a eu le lexique pour le dire, et que ensuite, ça s'est perdu en quelques dizaines, voire centaines d'années, donc en gros, entre la fin du XVIIIe siècle et le milieu du XXe siècle, on a perdu ce souci de décrire la nature, de dire le monde, sans l'agresser aussi, parce qu'il y a cette dimension très agressive que vous décrivez. Wallace, donc concurrent de Darwin, est pas simplement quelqu'un qui décrit le monde, n'est pas simplement un entomologiste qui va essayer de décrire toutes les catégories de scarabées qu'il peut trouver en Angleterre, en Amérique latine ou en Indonésie, mais c'est quelqu'un aussi qui va ramener plus de 120 000 ou 130 000 exemplaires, spécimens en Angleterre, dont une vingtaine de peaux d'orang-outan qu'il aura tué lui-même. Donc ça n'est pas simplement un souci de la nature de l'extérieur, c'est aussi quelqu'un qui incise, qui taille, qui coupe et qui tue.
Tout à fait. Le drame, d'une certaine manière, c'est que les deux ont toujours coexisté dans la pensée et la pratique naturaliste. Le souci du détail du monde et la description en surface des choses, et puis la volonté d'incision, espèce de passion de l'entaille et de la collecte à tout va, et avec Wallace, de fait, qui a des pages absolument magnifiques sur son voyage dans l'archipel malais, et qui décrit d'une certaine manière, à même hauteur de ton, chacun des êtres qu'il croise chemin faisant dans la jungle. Eh bien Wallace est aussi un collecteur et qui vit évidemment de la revente des êtres qu'il capture, qu'il épingle, qu'il empaille, et d'une certaine façon, ce qui se joue aussi, c'est une sorte d'affaissement de la description en surface, avec aussi la montée en puissance de la biologie expérimentale darwinienne, dont Haeckel, précisément, que vous avez cité, est un excellent et malheureux exemple aussi. C'est l'affaissement de ce lexique-là de la description et la montée en puissance de cet art de l'entaille du monde, avec ce paradoxe précisément que Wallace tue 15 orang-outans. Ça, c'est le Wallace qu'on n'aime pas trop regarder en face, mais qui a tout de même beaucoup de sang de créatures sur les mains. Et il les dépouille au sens propre. Il revend les peaux à des institutions muséales britanniques. Et il toise leurs tibias, mesure leur périmètre crânien. Tout ça pour aboutir à la conclusion, qui est certes extrêmement intéressante, qu'il n'a bel et bien qu'une seule espèce de grand singe à Bornéo, contre ce que disaient d'autres naturalistes. Mais ça, c'est intéressant. Mais le plus fascinant, en fait, c'est lorsqu'il observe les orang-outans vivants et qu'il se rend compte qu'ils sont dotés de canines impressionnantes, alors même qu'ils ne consomment pas de viande et qu'en fait, elles n'ont aucune utilité dans l'exercice de la mastication. Et là, Wallace dit, pourquoi ? Alors d'autres naturalistes répondent, parce qu'ils se battent en se mordant, mais Wallace les observe, ils ne se battent jamais en se mordant. Et Wallace dit, peut-être qu'il y a dans la nature des attributs des êtres qui n'ont plus d'utilité. Ce qui est une façon, en une phrase et une seule, de remettre en cause toute la logique fonctionnaliste de la théologie naturelle, que certaines choses créées par Dieu peuvent n'avoir plus d'utilité aujourd'hui parce qu'elles sont des traces de stades d'évolution antérieurs. Donc en une phrase, évidemment, on se trouve déconstruit tout un édifice de pensée. Donc il y avait une vraie puissance dans ce savoir descriptif de la surface des êtres.
Avec ce que vous écrivez, donc d'écrire sans détruire est bel et bien possible, dites-vous, Romain Bertrand. Il faut simplement pour cela accepter de rester à la surface des choses. C'est le thème même de votre livre Le détail du monde. Et vous y insistez en disant que ce que Wallace ne disait pas, ce qu'il ne lui venait même pas à l'idée de dire, c'est que toujours l'émerveillement précède le massacre et qu'il fallut épingler des millions de papillons et de scarabées pour entrevoir deux ou trois des lois qui gouvernent leur grâce. Ce que Wallace ne dit pas, ce qu'il ne lui vient même pas à l'idée de dire, c'est qu'il n'est jamais de savoir innocent et que les sciences du vivant s'édifient sur un monceau de petits cadavres. Alors donc, il n'y a pas de progrès dans ce domaine-là, d'une certaine façon. Vous ne décrivez pas un moment idyllique qui serait celui de Humboldt et qui viendrait donc précéder un moment catastrophique qui est celui que nous connaissons, la collapsologie d'aujourd'hui et le monde qui s'effondre. Non, les deux vont ensemble, Romain Bertrand.
Les deux vont ensemble et en même temps, on peut penser que ce souci de la description dans le détail et en surface du monde était porteur d'une autre possibilité, d'une autre potentialité. On le sait parfaitement lorsqu'on prend la mesure de la complexité des systèmes taxinomiques, des sociétés un peu absurdement dites premières aujourd'hui et parfaitement sottement appelées primitives autrefois, des savoirs extrêmement complexes de la classification des êtres qui ne sont jamais passés par des prédations abusives, qui ne sont jamais passés par des pratiques systématiques de surprélèvement des insectes ou des oiseaux pour les inciser. Donc on peut avoir une connaissance formidablement précise du monde naturel sans pour autant en passer par cette espèce de rapport tout à la fois d'admiration et de destruction.
Alors vous évoquez aussi la figure de Louis Tiner qui cherche un bleu parfait en compagnie d'un personnage que l'on connaît alors que Louis Tiner n'est plus connu que de vous d'une certaine façon. Ce personnage c'est Albert Ier de Monaco qui lui aussi veut décrire le monde mais qui par ailleurs est un immense chasseur. Mais c'est vrai qu'il y a un chapitre quasiment final puisque c'est l'avant-dernier chapitre avant votre épilogue. C'est celui qui traite de Tom Harrison. Alors celui-ci est un personnage très particulier puisque vous nous expliquez qu'il vit en plein cœur du XXe siècle. Lui, ça n'est pas quelqu'un qui remonte au XVIIIe ou au XIXe. C'est un personnage qui s'intéresse aux oiseaux. Et Tom Harrison a passé son temps à faire du birdwatching, donc regarder le vol des oiseaux, voir leur comportement, voir comment ils migrent, comment ils passent dans le ciel, où ils s'arrêtent. Et il a inventé une technique donc qu'il a ensuite popularisée avec d'autres d'observation du vol des oiseaux dans son propre pays, mais qui va précéder l'observation d'une autre foule, la foule des hommes. Et c'est vrai que c'est un chapitre très surprenant. Il est sûrement connu, Tom Harrison, de tous ceux qui s'intéressent à la sociologie, parce que il a ensuite élaboré une sociologie des masses à partir de sa connaissance du monde et donc de son observation en surface de ces oiseaux.
Oui, alors Tom Harrison, d'abord il est connu de tous ceux qui ont voyagé au Sarawak à Bornéo, parce que quand on arrive, en tout cas quand on arrivait il y a 20 ans ou 25 ans à Kuching au Sarawak, son empreinte était partout, dans le musée qu'il avait constitué et où la plupart des pièces sont issues de ses propres collections. Et puis alors, dans la légende terrible de l'homme violent qu'il avait laissé derrière lui, il est en fait très peu connu dans l'histoire de la sociologie. On le redécouvre depuis une quinzaine d'années en Grande-Bretagne, précisément parce que cette organisation d'observation qu'il avait créée, qui s'appelle le Mass Observation, eh bien, a constitué des archives formidables sur les années 1930 et 1940, l'observation des comportements populaires avec des équipes d'enquêteurs qui étaient mandatées pour aller observer le peuple, aux abords des églises, etc. Il y a plus de 3000 rapports d'observation comme ça qui sont conservés dans les archives de l'université du Sussex.
Donc, vous dites que c'est le recueil systématique des archives du quotidien, en fait.
Exactement. Et Harrison demandait à ses enquêteurs de noter absolument tout ce qu'ils voyaient, ce qu'ils entendaient, de décrire des intérieurs domestiques, de cartographier le mouvement des passants dans une rue, de compter les chaussures de couleur noire et marron dans la rue principale de Bolton, qui était cette cité manufacturière où il avait décidé d'installer d'une certaine manière son quartier d'anthropologue de sa propre société. C'est évidemment un personnage fabuleux et en lui-même romanesque et qui a beaucoup œuvré à bâtir sa propre légende. Il est anthropologue, il travaille aux Nouvelles Hébrides, il est un héros de guerre parachuté dans la jungle derrière les lignes japonaises donc pendant la Seconde Guerre mondiale à Bornéo. Mais surtout, ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, dans un entretien à la BBC dans les années 1950, donc on revient sur l'invention de cette forme de sociologie, mais pour la critiquer aussi, en lui disant c'est tout de même très impressionniste, vous n'aimez pas la statistique, mm-hmm. vous la traitez un peu par-dessus la jambe, et surtout vous n'utilisez même pas de questionnaire lorsque vous allez écouter ce que les gens disent de leur propre vie. Et là, Harrison a un moment d'emportement et a cette phrase qui moi m'a habité, en tout cas m'a interrogé pendant très longtemps. Il dit, mais est-ce que l'on pose des questions aux oiseaux?
Voilà. Parce que il a commencé sa carrière comme observateur
Exactement.
Des oiseaux.
Et là, il faut revenir un peu en arrière. Il faut voir l'enfant et l'adolescent qu'il a été, qui était passionné par l'observation des oiseaux et qui a œuvré dans un monde de l'ornithologie britannique amateur de l'entre-deux-guerres, qui était en fait le vivier d'un nouvel art de l'observation et de la description du monde, mais qui poussait la question de ce que nous appellerions aujourd'hui la pensée antispéciste, de l'existence de métaphysique animale, par exemple, mm-hmm. à des extrêmes. Et à des extrêmes de tentatives littéraires tout à fait fascinants. Je parle d'Howard, par exemple, qu'on jugeait fou sur la fin de sa vie, mais Elliot Howard, qui a écrit un livre qui s'appelle Water Ends World, qui est en fait la tentative de penser le monde avec les foulques, avec les oiseaux d'eau, de leur point de vue, dans leurs propres termes. Et Harrison essaye de faire la même chose, c'est-à-dire comprendre le monde des hommes, mais d'une certaine façon, dans les termes des oiseaux. C'est-à-dire en ne s'intéressant finalement pas tellement à ce que les humains ont à dire d'eux-mêmes, mais en les observant exactement de la même façon dont un ornithologue, tapis dans les halliers, observe le vol de la première mésange au petit matin.
On est très loin, et là ça renverse un peu la problématique que nous avons depuis notre début de notre discussion, Romain Bertrand, on est très loin d'Audubon qui, lui, se trouvait au moment même où Humboldt pouvait justement partir pour l'Amérique latine et décrire le monde sans vouloir y toucher d'une certaine façon. Audubon était un immense chasseur, il est devenu un héros de l'Amérique naissante par les magnifiques peintures qu'il a pu faire des oiseaux, en particulier de l'Amérique du Nord. Mais néanmoins, c'était un immense chasseur, il les tuait tous, ou presque. Il disait, je ne peux pas passer une journée sans tuer 100 oiseaux. Donc, on est très loin entre Tom Harrison et Humboldt, c'est qu'une sorte de vision inversée, pourrait-on dire.
Oui, tout à fait. Alors, Audubon, c'est d'ailleurs comme Albert Ier de Monaco, considéré comme pionnier de la conservation environnementaliste, mais qui était dans le monde de la chasse que j'ai fréquenté et que j'ai pratiqué, ce qu'on appellerait, je suis désolé de le dire tel quel, un viandard. Audubon, dont les magnifiques peintures de flamands du Mississippi sont dans tous les intérieurs américains, et qu'on admire parce qu'en fait, on a l'impression qu'ils sont vraiment croqués sur le vif. Et on l'imagine embusqué des heures durant. Et alors, on a ces oiseaux qui sont vraiment dans le mouvement de la vie, qui ont le poisson tout juste attrapé dans le bec, qui ont les cerfs dans la position de l'envol. Eh bien, la réalité est qu'Audubon, en fait, les abattait, les clouait sur des planchettes et les peignait alors qu'ils étaient déjà des dépouilles. Donc, ce sont des natures mortes.
On se demande, en lisant ce livre qui est très bien écrit, parce que c'est aussi une des grandes qualités d'un livre comme celui-ci, c'est que vous avez tenté de vous hisser à la façon d'écrire, vers la façon d'écrire de Francis Ponge, par exemple, qui est très présent dans ce travail. On se demande si votre volonté, ça n'est pas d'être comme Tom Harrison, celui qui n'est pas classé. En fait, quand on vous lit, vous dites cet éclectisme aurait pu, au temps de Humboldt et même encore de Wallace, assurer sa renommée, mais au milieu du XXe siècle, il fit sa perte en soumettant à un même régime de description une saisissante variété d'êtres et de choses. Tom Harrison agissait tel un praticien généraliste d'histoire naturelle du XIXe siècle. On ne pouvait plus, en 1950, être anthropologue et zoologiste. On ne peut plus être historien et autre chose aujourd'hui, et ce livre-là, il est dans l'entre-deux.
Oui, il est dans l'entre-deux. D'ailleurs, je le pense comme un livre très différent de ceux que j'ai pu produire et que probablement
l'histoire
j'espère...
L'histoire à part égale, ou encore le long remords de la conquête.
Voilà. Donc pour moi, c'est un peu un hommage à ces praticiens d'une histoire naturelle voilà, qui voulaient tout et peut-être trop embrasser, mais qui se faisant dessiner tout de même des chemins de connaissances et d'écriture, dont je pense qu'on gagnerait aujourd'hui à essayer, alors sinon de les emprunter, en tout cas d'à nouveau les parcourir avec l'œil d'un lecteur qui les prend au sérieux, qui les écoute vraiment.
Parce qu'aujourd'hui, le monde ne peut plus être décrit comme cela, parce qu'on n'a plus les mots.
Parce qu'on n'a plus les mots, parce que tout simplement notre dose ou notre degré quotidien d'attention au monde a quand même chuté à des niveaux qui sont ridiculement effarants. Et parce que si finalement j'ai été porté vers cette thématique-là, vers cette question-là, c'est qu'évidemment le moment de la catastrophe et donc de l'urgence se dessine. Et moi je suis persuadé qu'on a aussi, pratiquant les métiers de la pensée et de l'écriture, la responsabilité de toujours se porter là où la question et d'une certaine manière le danger survient. Donc on peut être le praticien spécialiste d'une histoire de l'insulinde moderne et coloniale et en même temps ne pas totalement se désintéresser à partir de son propre terrain en parlant de gens comme Tom Harrison ou comme Alfred Wallace au Sarawak à Bornéo d'une question qui doit tout de même nous occuper et il en va comme ça de l'homme. Il a avec les choses un rapport qui passe par les mots, des mots qui ne les recouvrent jamais totalement et le fait de ne plus même savoir nommer un certain nombre d'êtres naturels, je crois, participe à l'inattention grandissante, croissante que nous avons à leur égard et partant je crois aussi à la capacité de destruction que nous continuons à exercer à leur encontre.
Merci beaucoup Romain Bertrand, votre livre s'intitule Le détail du monde, l'art perdu de la description de la nature, c'est dans la collection L'univers historique au Seuil. Merci.
Merci.
J'accuse, les bureaux de la guerre d'avoir mené dans la presse une campagne abominable.
Le 26 avril prochain,
en portant ces accusations, je n'ignore pas que je me mets sous le coup des articles 30 et 31 de la loi sur la presse du 29 juillet 1881. Et c'est volontairement que je m'expose.
C'était à la une.
Le matin, 29 mars 1939. Madrid s'est rendue au général Franco. Les troupes nationalistes ont occupé la capitale abandonnée par les chefs rouges. La population madrilène a accueilli les libérateurs avec un grand enthousiasme. Madrid s'est rendue. La nouvelle, qui du reste n'a causé aucune surprise après la déclaration faite la nuit dernière par le général Franco, a été annoncé par le poste de radio madrilène aux premières heures du matin. L'occupation s'est faite sans qu'un seul coup de feu fût tiré. Ainsi s'est terminé aujourd'hui le siège qui avait commencé le 6 novembre 1936. D'après des informations parvenues de Burgos, les premières troupes à pénétrer dans Madrid ont été des compagnies mixtes espagnoles et italiennes commandées par le général italien Gambara. Escaladant les barricades qui avaient été dressées par les défenseurs rouges, les soldats nationalistes ont été accueillis avec enthousiasme par la foule qui s'élançait à leur rencontre. L'occupation a été complétée par l'arrivée de 200 000 hommes, ayant à leur tête le général Franco lui-même. Des drapeaux blancs étaient apparus pendant la nuit à presque toutes les fenêtres de la ville, mais çà et là, les couleurs franquistes se mêlaient à l'étendard de la soumission. Les madrilènes, hommes, femmes et enfants, ont donné le salut fasciste aux troupes nationalistes à leur passage dans les rues et ont crié en chœur « Vive Franco !» La fameuse 5e colonne madrilène, composée de sympathisants nationalistes demeurés dans la ville pendant toute la durée de la guerre civile, a pu se montrer ouvertement pour la première fois et parcourir en camion les principales artères. Aujourd'hui, dans les magasins de Madrid, les billets de banque de la République ne sont pas acceptés en paiement. C'est la Russie qui doit recueillir les réfugiés espagnols. Maintenant que les pouvoirs publics français sont unanimes à exiger le départ de France des réfugiés espagnols qui sont nourris, éclairés, couchés et chauffés aux frais des contribuables, maintenant que l'on a fait comprendre à M. Lequerica, ambassadeur d'Espagne, qu'il était impossible de conserver plus longtemps hors de leur pays des gens qui ne demandent qu'à y retourner, une question importante se pose de nouveau. Celle des réfugiés de l'Espagne qui vient de capituler. Réfugiés que Madrid, Valence, Albacete et Alicante songent à refouler sur la France. Comment pourrait-on accueillir ces réfugiés de la dernière heure alors que l'expérience a démontré qu'il était urgent de se débarrasser des autres qui les précédèrent dans les camps? Répondre par l'affirmative serait une véritable gageure. Il faut que le ministère des Affaires étrangères prenne à cet égard une position formelle. Pourquoi la Russie, qui a fait la Révolution espagnole, n'accueille-t-elle pas aujourd'hui ceux qui doivent fuir l'Espagne pour avoir obéi aux ordres de Moscou? Évidemment, il y aurait un moyen simple et facile de hâter le retour des réfugiés espagnols vers leur terre natale. Ce serait d'utiliser les camions espagnols qui les ont amenés sur la terre de France. Ainsi s'évanouiraient les difficultés de transport que les administrations des deux pays se jettent à la tête. Nous détenons actuellement quelque 1500 camions espagnols provenant de l'exode de Catalogne. Il ne serait pas difficile là-dessus d'en prélever un millier, de faire monter dans chacun d'eux une quarantaine de réfugiés, de diriger le tout sur la frontière pyrénéenne, et les autorités franquistes, en même temps qu'elles récupéreraient les camions, récupéreraient leur chargement. Cela nous ferait toujours 40 000 clients de moins sur les bras. Il en est de même pour les bateaux que nous nous sommes engagés à rendre au général Franco. Va-t-on les lui rendre vides, ou ne va-t-on pas profiter de l'occasion pour les utiliser comme transport et faire monter des réfugiés à bord? On aimerait qu'en ce pays de France, où on relève souvent des excès d'imagination, on en trouve quelques traces dans les bureaux ministériels. Tout se passe comme si chacun en était totalement dépourvu.
Voilà donc pour ce « C'était à la une » avec le site Retro News de la Bibliothèque nationale de France, lu par Elsa Dupuis dans une réalisation de Thomas Duterre. Sachez que nous continuerons tout au long de ce mois d'avril de parler de la guerre d'Espagne et de sa fin. Comme d'habitude, cette émission a été préparée par Marion Dupont et Céline Leclerc. Élise Leu nous accompagnait aujourd'hui à la technique et Anne Fleury à la réalisation. L'histoire continuera tout le week-end sur France Culture avec à 10h concordance des temps demain, donc samedi. Jean-Noël Jeannet reçoit John Tolan pour parler de Mahomet en Europe. Et puis pour notre part, ce samedi, nous serons à 10h à la Sorbonne. Comme beaucoup d'autres émissions de France Culture, nous allons vous parler d'Europe. Rejoignez-nous et allez vous inscrire sur le site de France Culture. L'Europe était la mythe, c'est notre thème de l'émission de demain que nous enregistrons. Donc avec Achim Bembe, Lucien Belli et Bénédicte Savoie. La semaine prochaine, nous vous parlerons des grandes épopées et lundi de Gilgamesh. Et puis sachez aussi que Jukebox, l'émission de musique de week-end, traitera aujourd'hui des décennies de post-indépendance en Algérie.